أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں
Allah nous a accordé la grande faveur de pouvoir accepter le Messie premier l'Islam.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی.
Allah nous a accordé l'occasion d'accepter ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed bissas lui, serviteur qu'il a appelé notre Mahdi. En ajoutant le pronom « notre », le saint prophète Mohammed bissas lui a exprimé sa grande affection et sa grande proximité à l'égard du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam, dans ses ouvrages, présente la supériorité de l'islam. Le Messie premier l'Islam a présenté la supériorité de l'Islam et il a retourné contre les pourfendeurs de l'Islam leurs objections. Par ce faire, il a prouvé que l'Islam est l'unique religion offrant la proximité divine ainsi que la religion qui offre le salut contre les péchés. D'autre part, dans ses écrits, dans ses innombrables écrits, dans ses rencontres et ses dires, le Messie premier l'Islam a guidé à chaque pas ses disciples afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions morales et spirituelles. Ainsi donc, épris d'une grande inquiétude, le Messie premier l'Islam a conseillé à ses suivants de s'acquitter de leur serment d'allégeance et de devenir de vrais croyants. Ce sont autant de conseils que nous devons toujours avoir à l'esprit. Ceci sera le moyen pour accomplir notre réforme spirituelle. Grâce à ce moyen, nous aurons une meilleure compréhension de la foi. Et grâce à ce moyen, nous allons nous rapprocher davantage de Dieu. C'est par ce moyen que nous allons découvrir les secrets du Saint-Coran. C'est par ce moyen que nous allons découvrir la connaissance du Saint-Coran. Et c'est par ce moyen aussi que nous allons connaître le statut véritable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par ce moyen que nous pourrons corriger nos croyances et c'est par ce moyen que nous pourrons améliorer notre conduite. Ce sera là un grand malheur si nous ne profitons pas de ce trésor en dépit de sa présence. La force et le pouvoir sanctifiant qui se trouvent dans les paroles du Messie premier des salams n'existent nulle part ailleurs. Pourquoi, d'ailleurs, n'en serait-il pas ainsi? C'est lui l'imam qu'Allah a suscité en l'ayant asservi au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il l'a suscité afin d'augurer la renaissance de l'islam et afin de rapprocher l'humanité de Dieu. Nous qui proclamons avoir prêté allégeance au Messie premier l'Islam, nous devons lire ses écrits et nous devons les écouter. Nous devons lire ses écrits et les écouter tout en tentant de les traduire dans la pratique. Nous devons tenter d'être à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai quelques dires du Messie premier l'Islam, des dires et des conseils qui nous serviront de feuille de route pour notre vie. Il nous a présenté un objectif ainsi que la norme que doit atteindre un Ahmadi. Ces conseils prennent encore plus d'importance en ce monde où règne le matérialisme, étant donné que certains des nôtres se penchent davantage vers le monde. Étant donné qu'on accorde peu d'importance à la religion, nous affirmons que nous sommes des musulmans ahmadis de confession. Or, la conduite de nombre d'entre nous laisse à désirer. À la lumière de ces écrits, chacun des nôtres pourra juger sa position actuelle et l'on pourra juger où l'on devait se trouver. Que signifie la taqwa? Quelle est la norme à atteindre dans ce domaine? Que signifie la vertu et quelle est la norme à atteindre dans ce domaine? Quelles sont nos responsabilités? Le Messie premier l'Islam explique ceci en ces termes. Allah déclare à propos de l'acquisition de la vraie taqwa que « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha » C'est-à-dire, ô vous qui croyez, adoptez la taqwa. Allah affirme ensuite, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. C'est-à-dire, Allah soutient ceux qui adoptent la taqwa. La taqwa signifie éviter le mal. Et les muhsinoun ne se contentent pas d'éviter le mal. Ils accomplissent de surcroît des bonnes œuvres. Et Allah affirme aussi Lilladhina ahsanul husna, c'est-à-dire accomplissez vos bonnes œuvres en les embellissant. Le Messie premier l'Islam ajoute, j'ai reçu à maintes reprises cette révélation, Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Ce verset m'a été révélé un nombre incalculable de fois. peut-être même 2000 fois, ajoute le Messie premier Islam. Ceci m'a été révélé afin que les membres de ma communauté ne se réjouissent pas du fait qu'ils se sont joints à cette communauté. Afin qu'ils ne se réjouissent pas d'une foi imaginaire. L'on profitera de la proximité de Dieu et du soutien de Dieu quand on adoptera la vraie taqwa. L'on ne peut s'enorgueillir d'avoir évité l'adultère, le meurtre ou le vol. On ne peut s'enorgueillir d'avoir évité ces infamies. Éviter les péchés n'est ni preuve d'excellence, ni source de fierté. Celui qui évite le vol sait que s'il en commet, eh bien, il sera emprisonné selon la loi. Il sera attrapé et il sera puni. L'islam auprès d'Allah ne signifie pas se contenter d'éviter les mauvaises actions. Tant que l'on n'abandonne pas le mal pour accomplir de bonnes œuvres, l'on ne sera pas spirituellement vivant. Les bonnes œuvres ressemblent à de la nourriture. Personne ne pourra vivre sans aliments. De même, tant que l'on n'accomplira pas des bonnes œuvres, des œuvres pieuses, l'on ne pourra rien accomplir du tout. C'est en abandonnant le mal que l'on pourra progresser spirituellement. Certains mots influencent la vie de l'homme de manière inconsciente. Mais vient ensuite le moment où l'on est attrapé par Dieu en raison de ses transgressions. Le Messie premier Salam explique : il existe de grands péchés à l'instar du mensonge, de l'adultère, de la malhonnêteté, du faux témoignage et de l'usurpation des droits d'autrui. Il y a aussi le shirk. Cependant, l'on est aussi coupable de péchés subtils et l'on est inconscient à ce propos. L'on vieillit sans considérer ses actions comme autant de péchés. On passe toute sa vie à commettre ces transgressions que l'on considère insignifiantes. Le Messie premier Islam nous cite des exemples. Il dit « Certains ont l'habitude de se plaindre à propos d'autrui et d'exprimer leur mécontentement, car un tel a dit ceci, un tel a dit cela. À leurs yeux, ce sont des faits ordinaires, quand aux yeux du Coran, ce sont des actes gravissimes. » Ces plaintes se transforment, en fin de compte, en de la médisance. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a émis un grand avertissement à ce sujet. Le Saint-Coran déclare « Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita » Allah n'aime pas que l'on exprime du mépris à l'égard d'un frère. Allah déclare que vous détesterez de consommer la chair de votre frère mort. Énoncer des propos méprisants à l'égard d'un frère attire la colère divine, car ces paroles incitent à nuire à autrui. C'est-à-dire que l'on ne s'arrête plus aux simples paroles, l'on nuit aussi à autrui. L'on commence à médire sur autrui, l'on nourrit de la suspicion, pour ensuite arriver au seuil où l'on tente de nuire à autrui. Le Messie premier Islam ajoute, l'on tente de prouver que l'autre est un ignorant, l'on tente de prouver que l'autre est un imbécile. En secret, l'on dévoile impudemment ses habitudes et l'on exprime son inimitié à son égard. Il en est de même de l'avarice et de la colère. Ce sont autant d'actions condamnables. En accord au commandement divin, il faudra, dans un premier temps, éviter ces maux, éviter ces transgressions. Que ces transgressions et ces maux concernent les yeux ou les oreilles, les mains ou les pieds. Il ne faut pas commettre ces transgressions ni par les yeux, ni par les oreilles, ni par les mains, ni par les pieds. Il ne faut point commettre des péchés par ses membres, car Allah affirme « Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna samha wal basar wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'oula. » C'est-à-dire, ne suivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance, car l'on demandera des comptes aux oreilles, aux yeux, au cœur et à chaque membre du corps. C'est-à-dire qu'après la mort, l'on devra rendre compte de ses actions auprès de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare la suspicion est la cause de nombreuses transgressions. L'on tire des conclusions hâtives sans mener d'enquête dès qu'on entend quelque chose sur quelqu'un. Ne ressassez pas dans le cœur ce dont vous n'avez aucune connaissance certaine ou aucune conviction. Cette méthode vise à effacer les suspicions sans constat visuel et sans de décision juste. Il ne faut pas ressasser ces suspicions ou en faire l'évocation. Le Messie premier Salam ajoute, c'est un conseil sage et excellent. Beaucoup sont attrapés en raison de leurs propos. Ainsi, si nous nous débarrassons des suspicions, la moitié des troubles et des disputes et de l'animosité de nos sociétés disparaîtront. L'on pourra faire naître de l'unité. Le Messie premier salam ajoute, « Beaucoup sont attrapés en raison de leurs propos et cela leur cause des remords et des pertes. » C'est-à-dire, leurs propos dévoilent la vérité et ils sont attrapés. La réalité dément leurs propos et ils sont embarrassés. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux ne pas avoir une mauvaise opinion de l'autre ou de mener une enquête si l'on entend quelque chose. L'homme est faible et certaines pensées naissent automatiquement dans le cœur. Or, si on ne les traduit pas dans la pratique, l'on sera pardonné par Allah. Allah ne nous attrapera pas pour de telles pensées, mais pour les avoir traduits dans la pratique. Le Messie premier des salam nous explique comment Allah nous attrape. Il déclare, les pensées passagères n'exposent pas au châtiment. Par exemple, l'on peut souhaiter avoir tel ou tel bien. Il s'agit là de la convoitise, certes, mais l'on ne sera pas puni pour autant, étant donné que pareille idée naisse dans le cœur de manière naturelle. Or, certains font de la place à ces idées et ils ourdissent des subterfuges pour acquérir de manière illicite ces biens. D'autres pensent à se faire des économies en échappant à l'impôt qui leur est dû. Allah ne punira pas pour la naissance de ces idées. Or, si l'on traduit cela dans la pratique en commettant de la fraude fiscale, en nuisant aux caisses de l'État, ou que l'on cache sciemment son revenu actuel pour diminuer ses contributions au sein de la Jamaat, eh bien, l'on sera attrapé par Allah l'exalté. Et l'expérience démontre d'ailleurs que les revenus de ces personnes diminuent petit à petit pour atteindre, dans la réalité, le niveau qu'ils ont déclaré dans leur contribution financière pour la cause de Dieu ou dans leurs impôts dus à l'État. En ce cas, explique le Messie premier Islam, ce péché sera passible de punition. L'on se détermine à traduire dans la pratique cette idée et l'on s'apprête à commettre son méfait ou sa fraude. Des businessmen ourdissent des plans afin de gagner par des moyens illicites l'objet de leur convoitise et ils passent ensuite à l'action. En ce cas, ce péché mérite châtiment, dit le Messie premier l'Islam. C'est un péché qui ne gagne pas beaucoup d'attention, mais c'est un péché qui cause de la destruction. La majorité des gens évitent les grands péchés. Le Messie premier l'Islam déclare, ils sont nombreux à ne pas avoir commis de meurtre, à ne pas avoir commis de vol ou d'autres grands péchés de cette catégorie. Or, combien sont-ils à ne pas s'être plaints d'autrui? Combien sont-ils à ne pas avoir médit, à ne pas avoir nourri de mauvaises pensées sur un autre? Combien sont-ils à ne pas avoir blessé leurs frères par leurs propos ou qui n'ont pas menti? Le mensonge connaît plusieurs formes. Allah enjoint aux croyants d'éviter tout type de mensonge. Ils doivent dire la vérité en toute situation. Le Messie premier l'Islam ajoute, « Il ne faut pas s'attarder sur ces pensées pernicieuses. » Ils sont peu nombreux à respecter ces conditions. Ils sont peu nombreux ceux qui n'ont pas blessé autrui, ceux qui n'ont pas soupçonné autrui, ceux qui n'ont pas menti, ceux qui n'ont pas eu de mauvaises pensées à propos d'autrui. Ils sont peu nombreux à respecter ces conditions. Ils sont peu nombreux à craindre Dieu, dit le Messie premier l'Islam. Ils ne commettent pas ces transgressions en raison de leur crainte de Dieu. Or, la majorité des gens mentent. La majorité des gens se plaignent à propos d'autrui dans leur rencontre. Et ils blessent leurs frères qui sont faibles. Analysez vos réunions et vous constaterez que l'on y évoque les défauts d'autrui, qu'on se moque de l'autre, qu'on évoque des puérilités et on ridiculise autrui. Et ceci engendre ensuite de l'animosité. Telle est la norme de la vertu. Il faudra éviter ces actions comme on l'attend de la part d'un croyant. Le Messie premier l'Islam déclare la première étape de l'homme est celle de la taqwa. Je ne peux dénombrer ici toutes les transgressions à éviter. Le Saint-Coran regorge du début à la fin de prescriptions et d'interdits, ainsi que de commandements divins. Le croyant doit lire le Saint-Coran, doit tenter de le comprendre. Il existe aussi plusieurs branches et différents commandements. À titre d'exemple, Allah n'aime pas que l'on répand du désordre sur la terre. Il souhaite qu'il y ait de l'unité ici-bas sur terre. Or, celui qui blesse les sentiments de son frère, celui qui l'opprime, celui qui lui est malhonnête, celui-là est l'ennemi de l'unité. Ses actions minent l'unité, l'amour et la fraternité. Il est l'ennemi de l'unité, dit le Messie premier l'Islam. Tant qu'il ne se débarrasse pas de ses mauvaises pensées, il ne pourra pas établir l'unité véritable. C'est cela la première étape. La bénédiction d'une jamaat est qu'elle engendre de l'unité. D'ailleurs, le Messie premier des salam et le Mahdi promis est venu pour établir cette unité, pour unir les musulmans sous une seule bannière et pour en faire une seule umma. Le Messie premier des salam ajoute, beaucoup sont touchés par de bons conseils prodigués lors des rencontres de la sorte. Et ils apprécient ces bons conseils. Ils sont touchés par les propos encourageant la vertu ou par le sermon qu'écoutent ceux qui sont présents. Leurs cœurs sont touchés et beaucoup m'écrivent à ce propos. Or, ajoute le Messie premier l'Islam, lorsqu'ils partent d'ici, lorsqu'ils rencontrent leurs amis, eh bien, ils se parent des mêmes couleurs et ils oublient les conseils qu'ils avaient entendus. Ils oublient les conseils qu'ils viennent d'entendre. C'est pour cette raison que j'encourage la répétition de ces conseils afin qu'on s'en rappelle avant même de les avoir oubliés. Ainsi, ces gens-là retournent à leurs anciennes habitudes quand ils auraient dû l'éviter, dit le Messie premier des salam. Il faudra fuir ces compagnies ou ces rencontres où l'on évoque pareils propos malsains, et il faudra être conscient de leur véritable teneur. Car avant d'acquérir l'objet désiré, il faudra en prendre connaissance. C'est-à-dire, quand on souhaite acquérir quelque chose, il faudra en connaître les propriétés. Il faudra connaître s'il est nocif ou s'il est avantageux. Il faut l'abandonner s'il est nocif et l'adopter dans le cas contraire. Tant que l'on ignore l'utilité d'un objet, pourquoi va-t-on l'acquérir ? Le Saint-Coran nous explique beaucoup de choses. D'où l'importance de lire de manière répétée le Saint-Coran. Vous devez consigner une liste des mauvaises actions et vous devez demander l'aide de Dieu afin qu'il vous accorde la grâce de pouvoir éviter ces maux. Ceci est la première étape de la taqwa, notamment le fait d'éviter le mal. Quand vous entreprendrez des efforts en ce sens, Allah vous en protégera. Allah va vous protéger de ces maux et il va vous offrir la boisson faite de camphre qui refroidira votre passion à commettre les péchés. Selon les médecins traditionnels, le camphre refroidit les passions et on utilise le camphre pour ses vertus thérapeutiques. Ici, le Messie premier des salam a évoqué les maladies spirituelles, affirmant que le fait d'éviter les péchés se transformera en boisson camphrée, et petit à petit, les péchés diminueront et ces péchés vont disparaître. Par la suite, l'on accomplira uniquement des bonnes œuvres. L'on reçoit cette coupe uniquement quand on devient muttaqi, sinon les actes d'adoration et les prières ne seront pas exaucés. Celui qui souhaite que ses actes d'adoration et ses prières soient exaucés doit éviter le mal et il doit adopter la vertu. Ceci est la taqwa. C'est une des conditions essentielles pour que les prières soient exaucées, car Allah déclare « Innama yataqabalullahu minal muttaqin ». C'est-à-dire, sans nul doute, Allah accepte les actes d'adoration des muttaqis. C'est là une réalité que les salats et les jeûnes des muttaqis sont les seuls à être exaucés. Le Messie premier l'Islam explique ce que signifie l'exaucement de leurs actes d'adoration en ces termes. L'acceptation de la sola signifie que les effets et les bénédictions de l'acte cultuel se manifestent en l'adorateur. Sans la manifestation de ces bénédictions et ces effets, l'adorant se contente de se remuer. à quoi sert ces soi-là et ces jeunes quand on prie dans la mosquée pour ensuite se plaindre à propos d'autrui? D'aucuns se demandent si leurs prières ont été exaucées par Dieu. Le signe de l'acceptation de la sola et des ibadas est qu'on s'est débarrassé de ces petits et grands mots et que l'on ressent de la haine à l'égard de ces mots et qu'on n'est plus intéressé à accomplir de bonnes œuvres et à dire la vérité. Au cas contraire, la sola n'est que simple gesticulation. Le Messie premier salam déclare, dès la sola accomplie à la mosquée, l'on commence à se plaindre d'autrui, à émettre ses doutes et ses suspicions sur les autres, à violer ses engagements. Les membres d'une assemblée doivent respecter la confidentialité de ces assemblées. Les titulaires de poste, en particulier, ne doivent pas discuter à la maison ou à une tierce personne à propos des délibérations des réunions de la Jamaat. C'est une règle que l'on doit respecter. Beaucoup de ces conflits naissent parce qu'on ne respecte pas le devoir de confidentialité de ces réunions. Et l'on commence à être jaloux à propos de la position d'un tel. L'on s'attaque à l'honneur d'un autre. Le Messie premier des salam déclare que les soi-là de ceux qui s'adonnent à ces mots ne servent à rien. J'ai connaissance personnelle de certains jeunes, et d'ailleurs certains m'écrivent aussi. Ils ont été témoins du comportement de certains titulaires de poste ou de leurs aînés. Ces jeunes s'éloignent petit à petit de la jamaat, de la mosquée, des actes d'adoration pour ensuite s'éloigner de Dieu. Ainsi, les soi-là de ceux qui en sont la cause ne servent à rien, voire ces soi-là nuisent à autrui. Si l'on souhaite s'occuper de la prochaine génération, les grands ainsi que les titulaires de poste doivent en premier lieu engendrer en leur personne la taqwa. La première étape est l'étape difficile pour celui qui veut être un musulman et qu'il doit éviter les mauvaises actions. C'est cela, la taqwa. Le Messie premier des salams explique, sachez que la taqwa ne signifie pas éviter uniquement les grands mots. Il faudra éviter ces mots qui sont les plus subtils. Par exemple, le fait de se moquer d'autrui, de ridiculiser une tierce personne en réunion, ou encore de s'asseoir dans une réunion où l'on se moque d'Allah et de son prophète, où l'on s'attaque à ses frères. Même si l'on n'est pas en train d'approuver ces propos aux yeux d'Allah, le simple fait de s'asseoir parmi ces gens-là, d'écouter leurs propos, est en soi un acte condamnable, même si l'on ne participe pas dans la conversation. Ceux qui ont une maladie au cœur agissent de la sorte, car s'ils étaient conscients du mal, pourquoi auraient-ils participé à pareille réunion? Le Messie premier l'Islam explique que ceux qui écoutent ces propos malveillants sont considérés comme ceux qui en sont coupables. Ceux qui énoncent de tels propos tombent sous le coup du châtiment, car ils ont été coupables d'un péché. Or, ceux qui s'asseyent silencieusement devront aussi payer le prix de ce péché. Ils sont tout aussi pécheurs et ils vont devoir goûter aux conséquences de cette action. Le Messie premier l'Islam déclare, écoutez ceci attentivement et lisez le Coran à maintes reprises, car ceci est le commandement de Dieu. « ceux qui maintiennent le silence en entendant des propos malséants et ceux qui s'en délectent devront eux aussi rendre compte à Allah l'exalté. Le Messie premier l'Islam explique aussi que le croyant ne doit pas se contenter d'éviter le mal. C'est un point évoqué auparavant. Les bonnes gens des autres religions et les autres nations, ou la majorité d'entre eux, évitent de commettre ces méfaits. Le Messie premier l'Islam explique « Certains, chez les hindous et chez les chrétiens, ne commettent pas des péchés. Par exemple, certains ne mentent pas, ils ne volent pas les biens d'autrui, ils remboursent leurs dettes et ils sont honnêtes. Or, Allah affirme qu'il n'est pas satisfait du simple fait qu'on évite à commettre ses péchés. Il faudra en retour faire le bien, car sans cela, le salut n'est pas garanti. Imbécile est celui qui s'enorgueillit du fait qu'il évite les transgressions. L'islam ne vise pas à mener l'homme à ce niveau uniquement. Il souhaite qu'il remplisse ces deux conditions, à savoir qu'il abandonne entièrement le mal et qu'il accomplisse des actes de vertu en toute sincérité. Le salut n'est pas garanti sans le respect de ces deux conditions. Le Messie promet l'Islam déclare « J'encourage ma Jamaat à progresser dans la taqwa et dans la pureté. » Et c'est ainsi que vous allez profiter du soutien de Dieu, tout comme il le déclare « Inna Allaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun » Allah est certainement avec ceux qui suivent la voie de la taqwa et qui accomplissent des actes de vertu et qui font le bien. Le Messie premier d'Islam ajoute « Sachez que si vous n'adoptez pas la taqwa et si vous n'accomplissez pas à foison les bonnes œuvres que Dieu souhaite de votre part, il vous détruira en premier car vous avez accepté un véridique, mais dans la pratique, vous l'avez renié. C'est-à-dire, vous avez accepté l'imam de l'époque, vous avez annoncé que vous êtes meilleur que les autres musulmans, vous annoncez que vous suivez la voie de la vertu. Or, sans la taqwa, vous serez en train de le rejeter dans la pratique. Le Messie premier salam ajoute « Ne vous contentez pas du serment d'allégeance et n'en soyez pas fiers. Sans posséder la vraie taqwa, vous ne serez jamais sauf. Allah n'est apparenté à personne et personne n'est privilégié à ses yeux. Nos opposants ont été créés par lui, tout comme vous avez été créés par lui. Ses opposants sont les créatures de Dieu et nous sommes ces créatures de Dieu. Ainsi, une simple différence de doctrine ne servira pas à grand-chose tant que vos paroles et vos actions ne sont pas en conformité. Les autres musulmans croient aussi que Dieu est unique, que le Saint-Coran est le Khatam Nabi et que le Coran est le dernier livre de loi. Nous partageons avec les autres musulmans les mêmes croyances. Or, s'il y a des contradictions entre nos paroles et nos actions, ces doctrines ne serviront pas à grand-chose. L'action est essentielle. Ainsi, il ne suffit pas de croire en l'islam, il ne suffit pas de se dire « Ahmadi », il faudra conformer sa conduite aux ordres divins et tenter d'être un véritable croyant, comme Allah le souhaite de notre part. Le Messie premier l'Islam déclare « Allah souhaite que vous démontriez la droiture dans la pratique afin qu'il soit avec vous. » Si vos qualités telles que la miséricorde, la courtoisie, la bienveillance, la vertu, la sympathie et l'humilité font défaut, s'il y a des manques dans ces bonnes œuvres, eh bien, je le dis et je le répète, vous serez la toute première Jamaat à connaître la destruction. Quand à l'époque de Moïse, son peuple n'a pas valorisé les commandements divins, en dépit de la présence de Moïse, les Hébreux ont été détruits par l'éclair. Croyez-vous pouvoir mériter le salut rien qu'en me prêtant allégeance? Le Messie premier Islam nous conseille aussi de préférer la foi à ce monde en ces termes. Et il a cité l'exemple des compagnons. Quel était l'exemple des compagnons? Il n'est point facile de préférer la foi à ce bas monde. Quel était l'exemple démontré par ces nobles compagnons? Ils étaient prêts à offrir leur vie pour la cause de Dieu. Il n'est point facile d'atteindre le stade où l'on est prêt à offrir sa vie pour la cause de Dieu. La vie des compagnons démontre qu'ils avaient accompli ce devoir. Ayant reçu l'ordre d'offrir leur vie, ils ne se sont pas penchés vers ce bas monde. Ainsi, il est essentiel que vous préfériez la foi à ce monde. Ces derniers temps, j'ai évoqué la biographie de nombreux compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans mes sermons. L'on y découvre des récits fort merveilleux de leurs sacrifices, de leurs vertus, de leurs taqwa, de la norme de leurs actes d'adoration. J'en ai évoqué afin que nous puissions avoir leurs exemples en tête. D'ailleurs, le saint prophète a déclaré que ses compagnons ressemblent à des étoiles. Il suffit de suivre n'importe quel parmi ses compagnons pour être guidé sur le droit chemin. Ainsi, ses compagnons nous servent de référence. Le Messie premier Islam ajoute celui qui se joint à cette jamaat tout en ayant comme objectif l'acquisition des biens de ce monde, eh bien, celui-là, aux yeux d'Allah, n'est pas un membre de cette communauté. Aux yeux d'Allah, les membres de cette jamaat sont ceux qui se sont détournés de ce bas monde. Il explique ce dernier point en ces termes. Ne croyez pas que vous serez détruits en vous détournant de ce monde. Cette idée vous éloignera de la connaissance de Dieu. Allah ne laisse jamais partir à la perdition celui qui se voue entièrement à lui. Il devient son pourvoyeur. Allah est Karim, il est généreux. Celui qui perd quelque chose dans sa voie obtient tout. Je l'annonce en toute vérité. Allah aime ceux qui respectent ses commandements et il bénit leurs enfants. Il est impossible que celui qui obéit à Dieu, au doigt et à l'œil, soit détruit ou que ses enfants soient détruits. Ceux qui abandonnent Dieu pour se vouer à ce monde connaissent la destruction ici-bas. N'est-il pas vrai que tout se trouve entre les mains d'Allah? Sans lui, l'on ne remportera aucune victoire lors des procès, ni aucun succès, ni aucun confort, ni aucune sérénité. L'on peut posséder d'immenses richesses. Mais qui pourra garantir que sa femme et ses enfants en profiteront après son décès? Il existe en effet de nombreux exemples où les biens ont été détournés après le décès de leur propriétaire. Réfléchissez sur ces points et réformez-vous. La Jamaat ou les Ahmadis sont loués pour la simple raison que Dieu est en train de couvrir leurs défauts. C'est Allah qui couvre vos défauts, c'est pour cette raison que vous êtes loués. Or, l'épreuve ou les tribulations mettent une personne à nu. La maladie qui se trouve au cœur frappe avec virulence et détruit le concerné. Le Messie premier Islam parle ici de son époque où le niveau de la taqwa de ses compagnons et de leur piété était bien plus élevé qu'à notre époque. Mais même en ces temps-là, le Messie premier Islam s'inquiétait beaucoup. Aujourd'hui, en accomplissant notre introspection, nous pourrons évaluer notre état. Nous pourrons évaluer la sincérité de notre revendication, ainsi que le niveau de notre piété. En expliquant davantage la nature du véritable croyant, le Messie premier Islam déclare « Ayez toujours à l'esprit qu'aux yeux d'Allah, celui qui sera considéré comme un véritable croyant et celui dont l'allégeance sera acceptée, celui qui donnera préséance à sa foi sur les affaires mondaines, comme il le promet lors de la Bayra. S'il accorde préséance aux choses mondaines, il brise son serment d'allégeance et il est condamnable aux yeux d'Allah. Ayez toujours à l'esprit que tant que les actes d'une personne ne sont pas justes, ses paroles ne sont que vaines déclarations. La vraie foi est celle qui émane du cœur, qui illumine les actes de la personne concernée. Cette véritable foi a été témoignée par Abou Bakr et par les autres compagnons, qu'Allah soit content d'eux, qui, en plus de leurs biens, ont sacrifié leur vie dans la voie d'Allah et ne s'en sont guère souciés. Le Messie Premier Islam ajoute : Je pense souvent à cela et la réalité de la grandeur du Saint Prophète se manifeste en ma personne. Il s'agit d'un peuple qui a été grandement béni. Le pouvoir sanctifiant du Saint Prophète Mohammed lui avait une telle influence que cela a permis d'élever ce peuple à un rang très élevé. Voyez la révolution qu'il a portée dans cette nation. Cette nation considérait les péchés tels que le vol, la consommation de l'alcool, la fornication, l'incitation au trouble comme des actes aussi légitimes que de boire le lait de leur mère. Il n'existait aucun péché que l'on ne trouvait pas chez ce peuple. Mais la grandeur du saint prophète, paix soit sur lui, l'éducation qu'il a impartie ont eu un tel impact qu'une révolution s'est opérée en ces personnes, tant et si bien que le saint prophète a témoigné en faveur de ses compagnons. « Ah, mes nobles compagnons, étant de simples êtres humains, ils sont devenus les reflets de la lumière divine, ils sont devenus tels des anges, tant et si bien qu'ils s'accomplissaient ce qu'il leur était commandé de faire. Ils ressemblaient à des anges. Ils avaient supprimé tous leurs désirs, ils avaient supprimé tous leurs sentiments personnels. » En parlant au sujet du devenir de l'Ahmadi, après son serment d'allégeance, ainsi que sa relation avec la communauté, sa relation avec le Messie Premier Islam à l'époque, ainsi qu'avec le système du califat qui sera établi après son départ. En effet, le Messie Premier Islam a déclaré que le califat va durer pour toujours. Le Messie Premier Islam déclare « La branche qui ne reste pas attachée au tronc finit par s'assécher et par tomber. » Celui qui a une foi vivante ne se soucie guère de ce bas monde. Car on finit toujours par obtenir les choses de ce bas monde. Celui qui préfère la foi à ce monde est béni. Quant à celui qui préfère le monde à sa foi, il ressemble à un moribond, à un mort, qui ne sera jamais témoin de la véritable aide divine. Cette baïra s'avéra bénéfique lorsqu'on va accorder préférence aux affaires religieuses et qu'on essaiera d'exceller dans cette voie. La baïra est-elle une graine qui a été semé en terre aujourd'hui? Si le paysan se contente uniquement de mettre la semence en terre et ne fait rien pour récolter des fruits, s'il ne travaille pas la terre, s'il ne l'arrose pas, s'il n'ajoute pas de temps en temps de l'engrais, s'il ne protège pas la pousse, peut-il espérer obtenir un fruit? Cette région où nous trouvons, le Texas, est agricole. De nombreuses personnes qui sont venues très récemment s'installer ici, des réfugiés ou des demandeurs d'asile, viennent des régions rurales du Pakistan et ils savent également qu'après avoir semé des graines, si l'on ne s'occupe pas de ces semences, eh bien, on ne peut pas escompter des fruits. Je souhaite également dire à ces nouveaux venus qui sont venus s'installer ici qu'Allah vous a permis d'avoir une meilleure situation ici. Vous avez la liberté de pratiquer votre religion. Vous pouvez vous acquitter de vos devoirs concernant l'adoration et vous pouvez exprimer librement votre opinion religieuse. Pour ces raisons, il est très important pour les Ahmadis qui sont venus ici du Pakistan qu'ils fassent de leur mieux pour s'acquitter de leurs devoirs, pour accorder préscience à leur foi sur les affaires mondaines et pour suivre les enseignements de Dieu. Ils doivent user de toutes leurs aptitudes pour atteindre cet objectif. Le Messie Premier d'Islam déclare Il dit que celui qui ne s'occupera pas correctement de son jardin, de son champ, de sa terre, eh bien, son champ finira par pourrir. Celui qui assumera ses responsabilités pourra préserver son champ. Vous avez également, en quelque sorte, semé une graine. Le Messie Promet Salam prodiguait ses conseils à ceux qui étaient assis devant lui dans son assemblée. Aujourd'hui, nous sommes concernés par ces paroles. Nous avons également semé une graine en acceptant l'Ahmadiyya. Le Messie Promet Salam dit, « Dieu l'exalté est au courant de ce qui se trouve dans la destinée de chaque personne. Chanceux sont ces personnes qui protègent cette plante et qui prient pour leur progrès. » À titre d'exemple, il doit y avoir un changement dans la salat. On doit être vigilant à cet égard. On ne doit pas se contenter de bâtir une mosquée. On a bâti des mosquées, certes, nous devons à présent en respecter les exigences. Ensuite, le Messie Promet Salam a prodigué un conseil important à la communauté que je vais vous présenter. Il déclare « Cette époque est de plus en plus perverse. Le shirk, les innovations et divers péchés ont pris de l'ampleur. » Lors de la Bayra, on promet de préférer la foi à ce monde. Nous faisons cette déclaration devant la personne de Dieu. Il faut que nous tenions cette promesse jusqu'à notre mort. Sinon, la Bayra ne pourra être considérée comme valide. Si vous parvenez à tenir cette promesse, Allah vous bénira ici-bas et dans l'au-delà. Faites preuve de taqwa pour la cause de Dieu. La situation est périlleuse. La colère de Dieu est en train de s'abattre. Celui qui se conformera au souhait d'Allah protégera sa propre vie, celle de ses proches et de ses enfants. Le Messie promis alayhi salam déclare « On ne cesse de manger jusqu'à satiété. Tant qu'on ne mange pas à satiété, l'on ne sera pas rassasié. » La colère d'Allah est en train de s'abattre et nous sommes témoins de ces signes. Il n'y avait jamais eu autant de tremblements de terre, autant de tempêtes, autant de catastrophes naturelles qu'il y a eu durant le siècle qui vient de s'écouler. Ici aussi, il y a régulièrement des tempêtes et des pluies torrentielles. Et on dit à chaque fois qu'un phénomène d'une telle envergure ne s'était pas produit depuis les 500 dernières années, depuis les 100 dernières années, ou depuis tant d'années, et que c'est un record. Mais que signifie tout cela? Il faut chercher à le comprendre. Les gens de ce monde ne comprennent pas cela. Mais nous savons très bien qu'il s'agit de la manifestation de la colère divine. Le Messie Promet l'Islam nous a donné des avertissements. C'est pour cette raison que nous devons nous réformer et nous devons aussi informer le monde qu'il ne s'agit pas de catastrophes anodines. Ces catastrophes ont été prophétisées plus de 100 ans de cela et il y a un seul moyen pour s'en prémunir, c'est-à-dire se tourner vers Dieu. Si les gens ne sont pas vigilants à cet égard, eh bien, les gens ne seront pas sauvés. L'homme a causé d'autres problèmes par des guerres, par des atrocités. On commet des atrocités et en fin de compte, lorsque ces atrocités aux yeux d'Allah vont atteindre leur apogée, selon nous, ces atrocités ont atteint leur apogée, mais Allah accorde du répit. Lorsque, selon Dieu, on atteint l'apogée, eh bien, Dieu détruit le peuple oppresseur. Et seuls seront épargnés ces gens à propos desquels le Messie Premier Islam a dit dans ses vers qu'un feu est allumé, mais seront épargnés de ce feu ceux qui éprouvent de l'amour pour Dieu. Il faut que nous soyons vigilants à cet égard, que nous puissions nous préserver, nous protéger, protéger le monde. Et pour ce faire, nous allons devoir faire beaucoup d'efforts. Nous allons devoir faire beaucoup d'efforts en ce sens. Le Messie Promet l'Islam déclare, quand on a faim et qu'on ne mange pas à satiété, eh bien, l'on restera affamé. Est-il possible que l'on soit rassasié en consommant que quelques miettes? Certainement pas. Si l'on ne consomme qu'une goutte, cela ne sauvera pas la vie. L'assoiffé mourra malgré cette goutte d'eau. Tant qu'il n'avalera pas et tant qu'il ne boira pas le minimum vital, il ne sera pas sauvé. Il faut manger et boire un minimum vital afin de rester en vie. Il en est de même de la religion de l'homme. Tant qu'il n'est pas rassasié en religion, il ne pourra survivre. Il faut être autant motivé par la spiritualité, par la taqwa et l'obéissance des commandements de Dieu, tout comme nous le sommes pour manger et boire afin de dissiper la sensation de faim et de soif. Le Messie premier salam ajoute, il faut toujours avoir à l'esprit que le fait de rejeter certains commandements divins revient à rejeter tous ces commandements. Si une part est réservée à Satan et l'autre à Allah, eh bien sachez qu'Allah n'aime guère pareil partenariat. Ce mouvement, cette communauté a pour but d'amener les gens vers Allah, l'exalter. Même s'il est difficile de partir dans la direction de Dieu et que cela exige une certaine mort, mais en fin de compte, on y trouve la vie. Celui qui retire de lui sa partie satanique est béni et sa bénédiction se projette partout dans son foyer, sur sa personne, dans sa ville. Mais s'il reste en lui une part satanique, il sera privé de bénédiction. Tant que le serment n'est pas mis en pratique, il ne vaut rien. Si vous préférez de grandes paroles devant une personne sans rien traduire dans la pratique, cette personne ne sera pas contente. Il en est de même à propos de la personne de Dieu. Il est le plus fier des fiers. Est-il possible que d'une part vous lui obéissiez et que d'autre part vous obéissiez à ses ennemis? Ceci est de l'hypocrisie. L'homme ne doit pas faire attention à ce que disent les autres. Il doit s'attacher à ses principes jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'il doit préférer la foi à ce monde. Il y a deux sortes de péchés. Le premier est le fait d'attacher quelque chose à la personne de Dieu, de lui associer quelque chose, de ne pas reconnaître sa grandeur, d'avoir des manquements quant à son adoration et son obéissance. Et deuxième type de péché est de ne pas être bienveillant envers ses créatures et de ne pas s'acquitter de nos devoirs à leur égard. Il faut se protéger des deux types de péchés. Restez ferme sur l'obéissance due envers Dieu. Soyez ferme dans ce serment d'allégeance. Ne faites pas souffrir l'humanité. Lisez attentivement le Coran et mettez-le en pratique. Évitez les assemblées où les gens se moquent des autres, des assemblées indécentes où l'on s'adonne au shirk. Soyez constants dans vos 5 prières quotidiennes. N'ignorez aucun commandement divin. Soyez physiquement propre et gardez votre cœur pur de toute rancœur, de toute animosité, de toute jalousie. Voilà ce que Dieu attend de votre part. Qu'Allah l'exalté fasse que nous soyons à la hauteur de notre serment d'allégeance et que nous puissions apporter en nous des changements purs. Et que nous puissions respecter notre promesse de préférer la foi à ce monde tout en vivant en ce bas monde. Et qu'Allah fasse que nous puissions mettre en pratique les enseignements du Messie premier l'Islam, que nous puissions comprendre l'essence de la 10e condition de la Bayra, où il est dit qu'on va vouer une obéissance parfaite au Messie premier l'Islam, et que nous puissions être à la hauteur de ces principes, de cette obéissance, afin d'être récipiendaires des grâces divines, de ces grâces que Dieu a promises au Messie promis à l'Islam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.